traduction du trait. Je lève les yeux vers toi qui habites dans les cieux. Oui, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître, et comme les yeux de la servante sur les mains de sa maîtresse.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure environ. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu ?» ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas !» Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Pour accompagner les catéchumènes de notre paroisse, ils sont 4, bien nous suivons les évangiles de l'année A, qui sont les évangiles catéchuménaux. Et là, cet évangile très connu de la Samaritaine. D'abord, la première chose que nous devons méditer, c'est le mystère du Christ qui est révélé dans cet évangile. Car vous savez que l'évangile, c'est d'abord la révélation du Christ, et par le Christ, la révélation du Père, la révélation de Dieu. L'évangile n'est pas d'abord un mode d'emploi, un mode de bienséance de la vie chrétienne. C'est d'abord la révélation. Jésus, au bord du puits de la Samaritaine, c'est Jésus qui à la fois anticipe son mystère pascal et c'est Jésus qui accomplit, qui réalise ce que figurait l'Exode, la traversée du désert, dont nous avons entendu un passage avec ce besoin de boire qu'ont les Hébreux dans le désert. Et voilà que Jésus arrive au bord de ce puits en ayant soif. Il s'identifie au peuple. D'autant que la tradition juive, et on en trouve une trace dans le livre des Nombres, signalait que pendant toute la traversée des Hébreux au désert, non seulement ils étaient accompagnés de la nuée, mais ils étaient accompagnés aussi d'un puits où l'eau jaillissait, qui symbolisait justement cette présence de Dieu. Donc Jésus, là, se manifeste comme étant à la fois le nouveau Moïse, comme étant Dieu qui se rend présent à nouveau au milieu des hommes. Il assume donc toute cette tradition de l'Exode, toute cette tradition pascale. Et puis, il anticipe ce qu'il va vivre. Parce que il est un autre moment où Jésus va dire « J'ai soif ». C'est sur la croix. Et il est une autre Samaritaine qui est appelée à faire la vérité sur sa vie. C'est l'humanité au pied de la croix, signifiée à la fois par cette part de fidélité que sont les saintes femmes, la Vierge Marie et Saint Jean, cette part d'infidélité et de péché que sont donc ceux qui crucifient Jésus, la foule qui hurle, et cette part aussi d'humanité qui se convertit, le centurion et le bon larron. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu, a dit le centurion, comme la Samaritaine dira à ses compatriotes, cet homme ne serait-il pas le Messie ? Et comme les Samaritains diront, vraiment cet homme est le sauveur du monde. Car cette eau jaillissante, en source de vie éternelle, c'est cette eau qui sort du cœur du Christ lorsque son flanc est transpercé. Et cette eau,
c'est le signe de l'Esprit Saint qui est donné à l'humanité, qui est donné à l'Église, pour qu'à son tour, elle puisse aller porter la parole de la présence du Sauveur dans le monde entier. Voilà comment cet évangile de la Samaritaine nous révèle la profondeur du mystère du Christ. Qui est Jésus ? Et comme la Samaritaine, nous avons à faire une progression. Cette Samaritaine, vous avez remarqué, d'abord, elle se demande « Mais qui est Jésus ?» Et elle le voit comme un homme, comme un juif, comme quelqu'un qui est, on va dire, religieusement et culturellement marqué. Comment toi, un juif, tu me parles à moi, une Samaritaine ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre nous ? Et ça, c'est une attitude que peut avoir l'humanité à l'égard de la religion. On l'entend, ça, dans les discours. Oui, la culture judéo-chrétienne dont il faut s'affranchir. La foi catholique qui est la foi d'une certaine culture. Hein. Voilà. Il y a eu à l'époque un livre écrit par Perfit qui disait que les États, les nations qui se sont le plus développées, ce sont les nations issues de la Réforme. Et les nations qui se sont le moins développées, pour ne pas dire les sous-développées, ce sont celles qui sont marquées par le catholicisme. C'était Perfit qui écrivait ça dans Le Mal français, si vous en souvenez, si vous l'avez lu. Donc cette manière de regarder le Christ avec culturellement, sociologiquement, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a entre nous. Je ne vais quand même pas me devenir chrétien, c'est pas ma culture, c'est pas bon. Et puis deuxième étape, elle le voit comme un prophète. Celui qui apporte une lumière sur l'existence, sur ce que l'on vit, sur les épreuves que l'on peut traverser. Là est donc celui à qui on peut poser des questions existentielles, des questions religieuses. Là, c'est notre part d'humanité, voilà, c'est qui va à l'église mettre les petits cierges pour obtenir le permis de conduire ou l'examen de passage. C'est les démarches que l'on fait lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui va nous tomber dessus vite, le Dieu protecteur. Et puis, troisième étape, passer donc de la croyance à la foi. Passer de la croyance à la foi et de voir en Jésus le Sauveur. Là, cet évangile donc nous invite finalement à une certaine forme de purification de notre foi. Trouver en Jésus le véritable adorateur du Père et découvrir que nous adorons le Père lorsque nous sommes identifiés au Christ, lorsque nous sommes de ses adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, parce que nous possédons l'Esprit Saint que le Christ nous a donné. En vérité, parce que nous sommes en communion avec le Christ qui a dit qu'il était la vérité. Enfin, dernier point, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, dernier point qu'on peut souligner, c'est il y a à la fois une dimension de rencontre personnelle, Jésus et la Samaritaine, mais il y a aussi, on dirait aujourd'hui, du collectif. Il y a les apôtres et il y a les Samaritains. Et dans un cas comme dans l'autre, la pleine réalisation de la foi et du salut passe par cette dimension communautaire. Jésus fait profiter les apôtres de la moisson. La moisson, c'est la conversion des Samaritains. Il leur dit, c'est pas vous qui avez semé, c'est pas vous qui avez peiné, c'est moi. Et d'ailleurs, c'est très beau, saint Augustin a une phrase à propos de la fatigue de Jésus. Il dit, Dieu dans le Christ nous a créés avec force, mais Dieu dans la fatigue du Christ part à notre recherche. Nous sommes créés par la force de Dieu, nous sommes recherchés par Dieu à travers la fatigue du Christ. Tout ça pour dire, voilà, les apôtres bénéficient de la fatigue du Christ. Et Jésus est reconnu comme sauveur du monde, pas uniquement par la Samaritaine, mais aussi par le village, les Samaritains qui ont rencontré, grâce à elle, mais qui ont rencontré comme communauté de village, le Christ, et qui disent, voilà, maintenant nous croyons pas seulement parce que tu nous en as parlé, mais parce que nous l'avons entendu directement. Cette dimension ecclésiale de notre foi que nous devons là aussi purifier. L'Église n'est pas seulement un endroit, n'est pas seulement un lieu identitaire, comme Jérusalem, comme le puits de Jacob. L'Église est avant tout une communion autour du Christ, une communion de frères, une communion de disciples, une communion d'apôtres, une communion de convertis, de baptisés. Alors, eh bien, puisqu'aujourd'hui, Jésus s'approche de nos puits de Jacob, là où nous avons nos préoccupations, là où nous avons besoin de revenir sans cesse pour alimenter notre vie, Jésus vient s'asseoir sur la margelle de notre puits et il vient nous appeler à la foi, il vient nous appeler à la conversion en faisant la vérité sur notre vie, afin que nous puissions porter cette bonne nouvelle au monde et ainsi provoquer la joie du Christ, cette fameuse nourriture de Jésus. « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, dit-il aux apôtres. » Qu'est-ce que c'est cette nourriture? C'est de faire la volonté et l'œuvre du Père. Qu'est-ce que c'est la volonté du Père, l'œuvre du Père? C'est que tout homme qui croit en lui obtienne la vie éternelle. Alors quel est l'aliment de Jésus? Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. L'aliment du Christ, la nourriture du Christ, c'est la joie de la conversion des pécheurs. Si nous voulons nourrir le Christ, il faut lui donner cette joie de la conversion, de notre conversion, la joie de la mission et de l'évangélisation. Voilà ce que nous pouvons demander au Seigneur pendant ce temps du carême, une conversion personnelle et une audace missionnaire.